ministère régional de la Santé, les équipes médicales n'ont pas encore découvert la cause de l'épidémie.
Merci Firma.
Votre santé, votre avenir, l'invité de la semaine.
Déjà 22 morts liés à l'épidémie d'Ebola. C'est tout au moins le bilan communiqué par le ministère congolais de la Santé à la date du 25 mai 2018. Deux semaines après l'annonce de l'épidémie, la riposte s'organise. Mais la lutte est loin d'être facile et la sensibilisation reste un facteur déterminant pour convaincre les populations des dangers de la maladie. Entre le 20 et le 22 mai, trois patients ont quitté, contre l'avis du personnel soignant, la zone d'isolation de l'hôpital de Wangata à Mbandaka. Les trois patients sont décédés. Comment et pourquoi cela a-t-il été possible? Qu'est-ce qui est fait pour éviter que cela ne se reproduise? Eddy Isango a joint à Kinshasa le docteur Oli Ilunga. Il est ministre congolais de la Santé. Voici ses explications.
Non, d'abord, il faut savoir qu'un hôpital, ce n'est pas une prison et que même en cas d'épidémie, la liberté des gens est toujours là. Donc, en fait, effectivement, donc, il y a eu des patients qui sont sortis et qui sont allés dans leur lieu de recueillement. On essaye de sensibiliser la population et de leur dire, mais bon, quelles que soient les croyances culturelles et autres, l'essentiel, c'est de rester dans les centres de santé pour se faire traiter. On essaie de, ça fait partie du travail de la sensibilisation communautaire qui doit continuer. Les autorités religieuses, coutumières, tout cela doivent être impliqués parce qu'il y a beaucoup de croyances autour de la maladie virus Ebola.
N'y a-t-il pas d'autres dispositions qui sont prises? Vous parlez des sensibilisations, mais sortir, bon, prier ou se recueillir, ce que les gens sont...
Non, mais un hôpital n'est pas une prison. Donc vous ne savez pas retenir un malade qui veut sortir. Donc ça, ça s'est passé dans d'autres endroits. La seule disposition que nous avons prise, c'est... Nous avons décidé de mettre le centre de traitement en dehors de la ville. Je crois que nous, parce que l'hôpital où il est situé maintenant, c'est quand même en plein centre-ville, avec beaucoup de fréquentation. Donc, on pense que avoir un centre de traitement un peu à l'écart de la ville où les gens, ça c'est le premier point. Deuxième point, renforcer tout ce qui est encadrement psychosocial des patients. C'est vrai que certains peuvent souffrir de claustrophobie, penser qu'on porte atteinte à leur liberté. Donc, il faut convaincre les gens, il faut les encadrer, il faut les soutenir moralement, psychologiquement. On ne pourra jamais transformer un hôpital en prison.
Comment les gens prennent-ils la campagne de vaccination qui a commencé? Peut-être c'est pour ça qu'ils sortent, pensant qu'ils sont désormais à l'abri?
Non, pas du tout. Je crois que c'est deux choses différentes. Bon, par rapport aux personnes qui sont sorties, donc il y a les psychologues ont parlé avec les épouses, avec l'entourage. Donc, ça c'est... Donc eux, ils parviennent aussi à cerner le problème à ce niveau-là, au niveau du type de soutien dont les patients ont besoin. La campagne de vaccination, ça c'est autre chose. On a bien expliqué que la campagne de vaccination, c'est pas pour les malades. La campagne de vaccination, c'est pour les contacts et les professionnels de la santé qui sont en première ligne. Je crois qu'il n'y a pas d'interférence par rapport à la campagne de vaccination. C'est deux messages tout à fait différents et quand on discute avec les familles, les épouses, l'entourage, ça n'était pas du tout en relation avec la vaccination.
Comment s'est fait la sensibilisation dans la mesure où quand ils sont, par exemple, dans un centre de recueillement ou de prière, les gens parfois s'imposent les mains, parfois avec les prières, on peut s'échanger des salives en criant, en priant à haute voix.
On vit dans un monde où les gens sont libres, hein, donc... On a sensibilisé les pasteurs, on a sensibilisé les autorités religieuses. Donc, c'est un travail de longue haleine. Donc, par rapport aux croyances des gens, par rapport à leur culture, on n'avait pas d'autre arme que de les convaincre et d'obtenir la collaboration des autorités religieuses. Mais je pense qu'ici, il y a quand même tout un travail qui a été fait. Le pasteur de l'église est quelqu'un qui a parfaitement collaboré. C'est grâce à lui qu'on a pu récupérer un des patients qui était sorti de l'hôpital. Donc, il y a quand même toute une collaboration qui se met en place. Et toutes les personnes de l'église qui avaient été en contact avec ce malade sont devenues des contacts qui doivent être surveillés, suivis. Les contacts de ces contacts-là aussi sont... Donc, les outils sont là pour surveiller et gérer des situations comme celle-là, tout en continuant la sensibilisation des grandes autorités coutumières et autres.
Entre-temps, la viande de brousse continue à être vendue sur le marché et les gens s'en procurent.
Il n'y a pas de relation avec la viande de brousse. La viande de brousse bien cuite, elle peut continuer à être consommée. Le message à la population n'est pas, on ne leur a pas interdit de manger la viande de brousse. Les consignes, c'est toujours des mesures d'hygiène de lavage des mains. Les consignes pour les chasseurs, c'est de ne pas prendre un animal mort dans la forêt, de ne pas dépecer un animal mort dans la forêt, mais un animal tué normalement par la chasse et qui est cuit normalement, on n'a jamais interdit aux chasseurs de manger la viande rose.
Restons en RDC avec le ministre congolais de la Santé, évoquant cette fois un autre aspect de la lutte avec la campagne de vaccination en cours. Un vaccin autour desquels règne parfois une certaine confusion. Tout d'abord, le docteur Oli Ilunga lève l'équivoque concernant le caractère expérimental de ce vaccin. Il est interrogé cette fois par Idriss Fall.
Je crois qu'il faut être très clair. C'est un vaccin qui est au stade 3B des essais cliniques. Vaccin 3B, ça veut dire que c'est un vaccin qui a démontré son efficacité. Donc l'efficacité ne doit plus être prouvée. Toutes les personnes qui ont été vaccinées en période d'incubation ne développent pas la maladie. Et donc 3B, c'est un vaccin dont l'efficacité est prouvée, mais qui est en attente d'autorisation de commercialisation.
On nous dit qu'il y a deux personnes qui ont pu guérir après avoir été testées positives de l'Ebola.
Tout à fait. Donc en fait, les deux premiers cas positifs de Bikoro ont pu quitter l'hôpital de Bikoro il y a deux jours. Donc ça, c'est simplement lié au fait que dès le départ, ils ont été mis dans des bonnes conditions de traitement. Donc toutes les complications qu'ils avaient développées ont pu être traités correctement et ils ont pu être guéris et ont pu être déchargés. Donc ce n'est pas inhabituel, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui survivent à Ebola dans le passé également.
La République démocratique du Congo en est à sa 9e épidémie. Quelles sont les mesures prises vraiment pour empêcher la propagation?
Non, en fait c'est ça, je pense qu'on est à la 9e crise, mais il faut savoir que c'est un virus qui est dans la forêt, c'est un virus qu'on ne saura pas éradiquer de sitôt. Donc en fait, c'est un challenge pour les scientifiques du monde entier. Les mesures que la République démocratique du Congo prenne, c'est toujours d'avoir des mesures de surveillance très strictes. Et lorsqu'il y a un cas, la riposte, nous la voulons toujours très efficace. Donc c'est surtout ça que nous faisons. Le plus important, c'est une riposte efficace qui est basée sur la surveillance, la détection des cas, la surveillance de contact et des mesures d'hygiène dans tous les lieux publics, au domicile. Et un autre volet, c'est les enterrements qui doivent être sécurisés.
Nous remercions le docteur Oli Ilunga, ministre congolais de la Santé.
Quelqu'un l'a vécu ? Voici son témoignage.
La lutte contre l'épidémie d'Ebola se heurte parfois à des croyances culturelles et religieuses. Comme nous vous le disions plus tôt, trois patients avaient quitté la zone d'isolation de l'hôpital de Wangata à Mbandaka. Parce que sa santé ne s'améliorait pas, l'un des patients a été conduit chez un pasteur. Eddy Sango a joint le pasteur en question. Il s'appelle Élisée Ntoma. Il nous raconte ce qui s'est passé.
C'était vers 21h. On nous a amené un monsieur transporté sur un taxi moto. Il est rentré dans l'église et nous avons prié pour son cas. Mais vers minuit, des policiers et des médecins sont arrivés et nous ont demandé comment le monsieur était à ce lieu alors qu'il était en quarantaine, hospitalisé parce qu'atteint de la maladie à virus Ebola. Et nous avons répondu que sa femme, son fils et quelques autres membres de sa famille l'ont amené, disons qu'il était à l'hôpital depuis 2 mois et qu'il y a beaucoup souffert sans amélioration. Ils nous ont dit que c'était quelque chose de ténèbre et que ça nécessitait la prière. Nous l'avons dès lors relâché et au matin, les agents du service de santé sont venus prélever les identités de moi-même, de mes disciples et de tous les fidèles qui étaient à l'église, près de 70 personnes. Après cela, ils sont venus désinfecter les lieux, mais nous attendons car ils ont promis de venir pour faire le test de dépistage.
Quelles précautions avez-vous prises lors de la prière pour éviter tout contact ou toute contamination? Nous ne savions pas que la personne était atteinte par la fièvre hémorragique d'Ebola. Ce sont les médecins qui sont venus nous prévenir que si nous voyons une personne avec des écoulements du nez, vomissant et faisant de la diarrhée sanguinolente, il s'agit de symptômes de la maladie à virus Ebola. Mais avant cela, nous ne savions rien de signe de cette maladie. Nous étions dans l'ignorance complète.
Qu'en est-il d'autres personnes sorties de l'isolement qui sont mortes? Les aviez-vous aussi reçues dans votre lieu de prière?
Le seul cas que je connais est celui du monsieur pour lequel nous avons prié. Tout le reste, je l'apprends à travers la radio, mais je ne les ai pas personnellement vus.
Comment se passe votre cérémonie? Que faites-vous durant la cérémonie?
Nous prions simplement sans autre chose, tellement que le malade était à l'agonie. On l'avait étalé sur une natte. Aucun de nous ne l'a touché de sa main.
Que ferez-vous maintenant? Allez-vous vous faire vacciner puisque vous êtes des personnes contact?
Nous avons reçu des conseils des médecins. Dès que nous avons un cas pareil, nous devons les appeler. Nous avons leur numéro de téléphone. Ceux qui sont venus nous ont promis de faire le dépistage et de nous soumettre aux soins, mais ils ne sont plus revenus.
Nous remercions le pasteur Élisée Thomas pour son témoignage. Les autorités congolaises et ses partenaires semblent avoir compris que les facteurs socioculturels doivent être intégrés dans la lutte. C'est en tout cas ce que nous a confirmé le docteur Julien Reckmann, chef de mission de Médecins sans frontières en RDC. Son témoignage a été recueilli par notre confrère Yakuba Ouedraogo.
En réalité, on est dans une zone qui est au niveau de la population, une zone où les croyances traditionnelles sont encore relativement fortes. Et c'est vrai que cette maladie qui est finalement peu connue peut créer des peurs. Donc il y a des personnes effectivement qui difficilement acceptent l'hospitalisation malgré nos efforts pour expliquer la situation. Et donc voilà, effectivement il y a des patients qui sont partis. C'est malheureux, mais on est parvenu à recontacter les familles, à les convaincre et à récupérer les personnes ou malheureusement les corps, puisqu'ils étaient déjà dans un stade avancé de la maladie. Cet épisode malheureux nous permet aussi, avec le ministère de la Santé, d'adapter une approche qui prenne en compte beaucoup plus les croyances locales et, disons, la structure sociale et la structure politique locale.
Ces trois personnes ont été retrouvées mortes.
En fait, il y a une personne qui a été récupérée, qui était toujours vivante. Et les corps aujourd'hui, les deux autres ont été enterrés de façon encadrée et correspondant aux règles de sécurité les plus élémentaires en termes de lutte contre l'épidémie d'Ebola.
Comment se passe tout cela avec la campagne de vaccination qui a été lancée justement par rapport au virus?
Aujourd'hui, la campagne de vaccination sur le terrain concerne le ministère de la Santé et l'OMS. MSF, pour le moment, n'a pas encore lancé sa propre campagne de vaccination. Il commencera un petit peu plus tard aussi pour mettre en place, disons, les conditions idéales pour pouvoir le faire.
Comment les populations vivent cette épidémie avec les croyances ancestrales qui, quand même, ne rendent pas la tâche assez facile à ceux qui veulent lutter contre la maladie?
Oui, alors c'est tout un travail à faire. Alors c'est ce qu'on appelle la promotion à la santé. Alors le terme est très très générique, mais en réalité il s'agit d'avoir des gens qui connaissent bien les croyances. On a même une anthropologue qui travaille avec cette équipe-là pour arriver à dessiner le message le plus recevable qui rentre dans un processus de pensée locale qui soit adapté. Évidemment, c'est des zones où le niveau d'éducation est parfois assez simple et voilà, il faut pouvoir adapter notre discours pour expliquer le mieux possible aux gens que leur propre santé est importante, c'est-à-dire que au plus ils vont chercher de l'aide médicale rapidement lorsqu'ils développent des symptômes, au plus leurs chances de guérison seront élevées. et aussi qu'ils ont une responsabilité par rapport au reste de la communauté, quand ils sont malades ou quand ils ont un proche qui est malade, de devoir trouver de l'aide dans une structure de santé pour pouvoir l'isoler et de ne pas infecter d'autres personnes. Donc il faut vraiment trouver le langage qui va parler au cœur des gens et à leur raison pour pouvoir continuer à endiguer la maladie.
Nous remercions le docteur Julien Reckmann, chef de mission de Médecins sans frontières en RDC. Autre partenaire en pointe dans la lutte, c'est l'Organisation mondiale de la santé, OMS. C'est l'OMS qui pilote la campagne de vaccination qui a débuté le 21 mai dernier. L'objectif est de limiter la propagation de l'épidémie au-delà du foyer actuel. Pour en parler, Jacques Aristide a contacté le docteur René Van de Werth. Elle est responsable des opérations d'urgence de l'OMS.
L'OMS est-elle inquiète d'une propagation à l'échelle nationale et régionale?
Non, nous sommes en alerte, comme vous dites. Très bien, on a eu effectivement identifié 630 contacts, un peu plus. Et comme on a dit d'abord, on va aussi entamer une vaccination de ces contacts. On a mis bien sûr les grandes villes comme Kinshasa et Kisangani en alerte, ainsi que les pays voisins, surtout le Congo-Brazzaville et la République centrafricaine, pour qu'ils puissent prendre des mesures, surtout sur des points d'entrée. Et on travaille bien sûr dans la ville de Mbandaka pour s'assurer que toutes les infrastructures sanitaires appliquent le protocole pour bien identifier les cas suspects et les amener dans les centres de traitement qui sont gérés par nos amis de Médecins sans frontières.
Que faut-il savoir sur le vaccin exactement? Quelle est son efficacité contre Ebola? Et y en aura-t-il en quantité suffisante pour les populations concernées?
Oui, et premièrement, on ne l'appelle plus un vaccin expérimental. Le vaccin a montré ses preuves dans l'épidémie dont vous avez parlé en Afrique de l'Ouest, où on a vacciné plus de 16 000 personnes avec ce vaccin. Le protocole qu'on utilise ici en RDC, c'est ce qui a été recommandé par un comité d'experts qui a estimé que le risque lié à ce vaccin, parce qu'il est, comme vous l'avez dit, pas encore homologué, ne dépassait pas le risque lié à l'épidémie. En termes de vaccin, nous avons effectivement commencé la vaccination à Mbandaka et nous sommes aussi en très étroite collaboration avec nos collègues de Médecins sans frontières pour qu'ils puissent commencer la vaccination à Bikoro et à Iboko. Jusqu'à maintenant, on a plus ou moins 8000 doses dans le pays. Le producteur de ce vaccin, qui est Merck, a mis à la disposition déjà 10 000 doses chez le fournisseur. Comme on a expliqué, c'est une vaccination en ceinture, c'est-à-dire on vaccine les contacts, les cas confirmés et leurs contacts, et ainsi, bien sûr, les agents de santé, ceux qui s'occupent des enterrements dignes et sécurisés, pour s'assurer qu'eux sont protégés.
L'OMS avait alors été vivement critiqué pour la lenteur. On parle de l'épidémie en Afrique de l'Ouest pour sa lenteur. Docteur Van de Weerd, qu'est-ce qui a changé depuis dans votre plan de lutte contre la maladie?
On a mis à disposition beaucoup plus de moyens. Comme j'ai dit, on a plus de 100 personnes déjà sur place. La deuxième chose, c'est qu'on a adopté un centre de commandement. Ça veut dire, moi, je vais partir en Mbandaka demain, j'aurai une ligne de communication directe avec Kinshasa et le siège. Ce qui veut dire que les informations vont être partagées beaucoup plus rapidement et d'une manière beaucoup plus transparente. Et troisième exemple, c'est le financement. On a maintenant des financements à notre disposition pour pouvoir déployer des mesures importantes. On a parlé des hommes, mais on a aussi beaucoup de matériel qui arrivait déjà, qui est en train de monter sur Mbandaka, Bikoro et Mbandaka, et le vaccin, on n'en est qu'un exemple.
Docteur Van de Weerd, avec les vaccins et les traitements à l'étude depuis quelques temps, et là on parle de l'efficacité de ce présent vaccin, n'est-ce pas? Serait-il possible un jour d'éradiquer Ebola?
Ça sera difficile à éradiquer le virus. Ce qu'on peut néanmoins faire, c'est mettre en place les mesures pour que le contact entre les virus et l'homme et sa transmission puisse être mieux géré, et surtout maintenant avec le vaccin, surtout réduire le taux de mortalité d'une manière très significative. Et ça veut dire aussi donner de l'espoir aux patients de Ebola. Avant, c'était, on n'avait pas de vaccin, on n'avait pas de traitement en cours. Ça veut dire qu'on peut changer la courbe de l'épidémiologie et changer la perception qu'on a sur cette maladie.
A-t-on besoin de plus de laboratoires à pointure en Afrique?
C'est un grand changement aussi. Aujourd'hui, en RDC, on a des laboratoires, quand je vous parle, à Bikoro, à Mbandaka, qui peuvent confirmer les cas d'Ebola. Ce n'était pas le cas avant. Et même, il y a deux trois semaines, on devait envoyer les échantillons de la province de l'Équateur ici au labo national pour la confirmation. On a pu décentraliser des laboratoires avec des technologies très modernes pour pouvoir faire la confirmation plus proche. Il reste bien sûr s'assurer que le personnel soit bien formé sur ces technologies, qu'on forme aussi le personnel sur la biosécurité parce que ça reste quand même un virus qui est dangereux, mais moi je dois dire qu'en quelques années j'ai vu un grand changement dans le déploiement de cette technologie sur le terrain, et comme je vous dis avec nos collègues de Médecins Sans Frontières, on a cette technologie aujourd'hui même à Bikoro.
Pouvez-vous rassurer les Congolais que la situation est bien sous contrôle, qu'on peut maîtriser cette situation et que donc il n'y a pas vraiment de gros dangers?
On est dans le début de l'épidémie, on a quand même des cas dans une grande ville comme Mbandaka. Ça veut dire qu'on doit être vigilant, mettre en place des mesures aussi d'entrée et de sortie des bateaux, bien informer le personnel de la santé qui doivent être en alerte, que dès qu'il y a un patient qui présente des signes qui sont suspects, qu'on contacte les centres de traitement. On n'est pas du tout dans la phase où on est sorti de l'auberge, si on peut dire. On est dans la phase début de l'épidémie. Mbandaka, c'est une grande ville avec un grand port, avec beaucoup de bateaux. On doit être vigilant et en mettre en place les mesures de contrôle sanitaire.
Nous remercions le docteur René Van de Vert pour toutes ses explications.
Questions et commentaires, c'est maintenant. Chers auditeurs, un expert vous répond.
Voici le moment, chers auditeurs, nous vous donnons la parole pour poser vos problèmes de santé. Notre consultant, le docteur Armand Nguenkap, a répondu à vos questions. Le docteur Nguenkap est médecin urgentiste et praticien au Centre hospitalier universitaire de Soissons, en France.
Je suis Kachova Taolia Espérance, docteur, suis en ville de Beni, au Nord Kivu. Je voudrais savoir si une personne vivant avec le VIH-Sida peut avoir le même quotient intellectuel qu'un enfant né sans cette maladie contagieuse.
Ce que je peux répondre à Espérance, c'est que bien évidemment, une personne qui vit avec le VIH-Sida peut avoir le même quotient intellectuel, sinon avoir même un quotient intellectuel plus élevé qu'une autre personne qui ne souffre pas de cette maladie-là. Mais il est évident qu'il faudrait que cette personne infectée par le VIH-Sida n'ait pas développé des complications infectieuses cérébrales comme des toxoplasmos cérébrales ou des tuberculoses cérébrales, parce que ça, c'est malheureusement les complications du VIH qui peuvent endommager le potentiel intellectuel. Et bien évidemment, il faudrait que cette personne qui vient le VIH-Sida puisse bénéficier assez précocement d'un traitement antirétroviral qui va permettre de rendre sa charge virale indétectable et qui lui permettra de vivre comme une personne qui n'a quasiment pas été infectée par le VIH-Sida. Bien évidemment, cette personne également, pour qu'elle puisse garder tout son potentiel intellectuel, devra avoir un excellent soutien socio-psychologique de son entourage, parce que un désordre psychologique, un trouble de l'humeur chez cette personne-là peut être source d'une dépression mentale. Et une dépression mentale, malheureusement, peut agir négativement sur le quotient intellectuel de la personne et rabaisser ce quotient intellectuel-là à une valeur nettement inférieure à celle qu'elle se devait être. Voilà ce que je pouvais répondre à Espérance par rapport à sa question.
C'est ici que prend fin votre santé, votre avenir. Cette édition était consacrée à la lutte contre la 9e épidémie d'Ebola en République démocratique du Congo. Pour en parler, nous avons reçu comme invité le docteur Oli Ilunga, ministre de la Santé de la RDC. Il nous a parlé des opérations de riposte déployées par le gouvernement congolais et ses partenaires. Nous avons aussi écouté le témoignage du pasteur Élisée Ntoma, qui a accueilli un patient. Le dit patient avait quitté le centre d'isolation de Mbandaka pour chercher guérison grâce à des prières. Et dans le cadre des opérations de riposte, nous avons écouté le docteur Julien Reckmann, chef de mission de Médecins Sans Frontières en RDC. Nous avons enfin écouté le docteur René Van de Vert, responsable des opérations d'urgence de l'Organisation Mondiale de la Santé. Nous leur disons merci.
Merci également à Firmin Koyaweda qui était là avec nous pour vous présenter les événements qui font l'actualité santé. Un grand merci à nos différents collègues de la rédaction centrale de La Voix de l'Amérique, Idriss Fall, Eddie Isango, Jacques Aristide Yakuba, Ouedraogo, Congo qui ont contribué à la préparation de cette édition. Une édition réalisée avec le concours de Tchik Thierry et de Thomas Blondet qui était à la console. À la présentation, c'était Rosine Munezero et j'étais en compagnie de
Mamadou Oumfa.
Continuez à écouter VOA Afrique et n'oubliez surtout pas de prendre soin de votre santé car votre santé, c'est votre avenir. À très bientôt.
C'était Votre Santé, Votre Avenir, une production de VOA Afrique. Pour vos commentaires, vos questions ou vos témoignages, retrouvez-nous sur voafrique.com et sur notre page Facebook VOA Afrique.